de la nouvelle proposition relative au bannissement de Charles X et de sa famille. Proposition, lue dans la séance du 14 septembre 1831, développée et prise en considération à l'unanimité dans la séance du 17 septembre, soumise à l'examen d'une commission nommée dans les bureaux de la Chambre le 22 du dit mois. Article 1er. L'ex-roi Charles X, ses descendants, les épouses et époux de ses descendants, sont bannis à perpétuité du territoire français et ne pourront y acquérir, à titre onéreux ou gratuit, aucun bien, y jouir d'aucune rente ou pension. L'infraction au bannissement prononcée par le présent article constitue le crime défini par l'article 91 du Code pénal. La mort. Article 2. Les personnes désignées par l'article précédent seront tenues de vendre dans les 6 mois, à dater de la promulgation de la présente loi, tous les biens sans exception qu'elles possèdent en France. Si la vente des biens n'est pas effectuée dans le délai prescrit, il y sera procédé dans les formes déterminées pour l'aliénation des biens des mineurs et pour ceux de l'État par l'administration des domaines. Le produit des recettes, déposé à la caisse des consignations, sera tenu à la disposition des fondés de pouvoir des anciens propriétaires, déduction faite des droits des créanciers, et sauf tous les droits et actions des tiers. Français, je prie Dieu qu'il ne venge pas sur la nation le sang de vos rois qui va être répandu. Parole de Louis XVI sur l'échafaud. Vous êtes victorieux. Vous avez proscrit. Vous voulez proscrire encore. Adossez le bannissement à la peine de mort. Usant et abusant du succès, vous lui prétendez imprimer le caractère de la propriété. Je ne viens pas vous contester le fait, mais le droit. Le droit d'abord battu par le fait, finit par le battre. La raison en est simple. Le droit et la justice, sans laquelle point de société. Le temps même convertit le fait en droit pour le soumettre à la compétence de la justice. Il y a 2 manières de consacrer une révolution sortie du principe de la souveraineté populaire. La rendre utile, la faire ratifier par la nation. Dans le premier cas, toute révolution de cette nature, qui laisse un peuple plus mal après cette révolution qu'il ne l'était avant, n'authentique pas son acte de naissance. Dans le second, toute révolution populaire qui n'a pas été ratifiée par le peuple, convoquée ad hoc, manque de sanctions. Que doit-on au gouvernement qui nous régit? On lui doit l'impôt, on lui doit obéissance dans les lois civiles, criminelles, administratives, obéissance dans les règlements militaires et les mesures de police. Les premières sont la vie sociale même, les autres sont nécessaires à l'indépendance nationale au dehors, à la sûreté publique au dedans. On ne doit ni conspirer en secret contre ce gouvernement, ni chercher à le renverser à force ouverte. On lui doit même bienveillance en tout ce qui ne blesse pas des intérêts essentiels. Les complots et la violence sont contraires aux commandements religieux et aux préceptes moraux. Quant aux lois politiques émanées de la monarchie nouvelle, on est libre d'en penser, d'en dire, d'en écrire ce que l'on veut, parce qu'elles ne reposent point encore sur des faits utiles ou des bases légales. Ces vérités ont leur preuve dans les questions suivantes que je me propose d'examiner. Premièrement, les journées de juillet advenues, que pouvait-on établir? Deuxièmement, la monarchie élective de Louis-Philippe étant fondée, s'est-on soumis aux conséquences du principe de cette monarchie? Et quelle a été la conduite de l'administration à l'intérieur et à l'extérieur? Troisièmement, la monarchie élective, n'ayant pas rempli les 2 conditions premières de son existence, à savoir félicité publique au-dedans, honneur et sûreté au-dehors, cette infirmité ne devait-elle pas être guérie par l'assentiment d'un congrès national, assentiment donné à cette monarchie? Quatrièmement, si dans le cas d'une défense personnelle, le gouvernement actuel a pu tuer et proscrire en juillet 1830, le peut-il en octobre 1831 qu'il n'ait pas attaqué et que son mandat politique ne lui a été continué ni par la souveraineté de la gloire, ni par celle du peuple, ni par celle du temps? Parcourons cette série de questions, lesquelles nous amèneront à repousser la proposition relative au bannissement des Bourbons de la branche aînée. Les journées de juillet advenues, que pouvait-on établir? On pouvait faire une de ces cinq choses. Proclamer la République, perpétuer la forme monarchique en élevant au trône une race toute nouvelle, rappeler la dynastie de Napoléon dans la personne du duc de Reichstadt, maintenir celle de Saint-Louis dans la personne du duc de Bordeaux, la perpétuer dans la branche cadette. La République. Il y a pour tous les ministères et sous toutes les constitutions une phrase à l'usage des majorités. Cette phrase renferme l'aveu d'une vérité de théorie à laquelle on oppose une impossibilité de pratique. Par ce stratagème, on se figure désarmer son adversaire et demeurer victorieux. Ainsi, dans les commencements de la Restauration, lorsqu'on proposait des lois d'exception, on disait « La liberté de la presse est une chose excellente, un trésor d'un prix inestimable, une garantie de toutes les autres libertés. Mais nous venons vous demander la censure à cause des circonstances. » À présent, c'est la chimère de la République qui a remplacé les circonstances. D'où l'on conclut, en allant dîner, que la monarchie élective, telle que les peureux l'ont faite, est, selon la science et la raison. Et pourquoi donc la République serait-elle une chimère? Depuis la découverte du gouvernement représentatif, il est prouvé que la représentation se peut appliquer à un grand peuple dans la forme républicaine comme dans la forme monarchique. Le gouvernement républicain a des avantages incontestables. Il est à bon marché, il est fort noble, il assigne aux intelligences leur rang naturel. Dieu, dans l'Écriture, ordonne à Samuel de détourner les Israélites de leur dessein lorsqu'ils se veulent donner un roi. Samuel dit au peuple « Voici quel sera le droit du roi qui vous gouvernera. Il prendra vos enfants pour conduire ses chariots. Il en fera des gens de cheval et il les fera courir devant son char. Il se fera de vos filles des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra aussi ce qu'il y aura de meilleur dans vos champs, dans vos vignes et dans vos plants d'oliviers. Il le donnera à ses serviteurs. Il vous fera payer la dîme de vos blés et du revenu de vos vignes, pour avoir de quoi donner à ses eunuques et à ses officiers. » Si le gouvernement républicain fût résulté de la Révolution de juillet, il aurait mis à l'aise bien des consciences. En lui prêtant serment, on n'aurait rien trahi, car c'eût été un changement de principe, et non un roi substitué à un roi. Il n'y eut pas eu usurpation, mais un autre ordre de choses. Quant à moi, qui suis républicain par nature, monarchiste par raison et bourboniste par honneur, je me serais beaucoup mieux arrangé d'une démocratie si je n'avais pu conserver la monarchie légitime que de la monarchie bâtarde octroyée de je ne sais qui. Il n'est donc pas vrai que la République soit une chimère, dans le sens absolu de ce mot. Il paraît vrai seulement qu'après les journées de juillet, la France ne l'eût pas adoptée. Il paraît encore plus vrai que nos mœurs ne l'eussent pas soutenue. Les éloges de la terreur et des terroristes avaient épouvanté les esprits et les souvenirs. Nos parents massacrés se levaient de la tombe et nous demandaient si nous allions boire à la mémoire de leurs bourreaux. La France, pendant les 16 années de la Restauration, a fait des progrès en politique, mais il nous eût fallu 30 ou 40 ans de monarchie constitutionnelle sans révolution, pour nous apprendre le sobre usage des libertés. Les vieilles générations auraient achevé de s'écouler. Les jeunes générations nées sous la charte eussent pris le goût de l'ordre légal. Peu à peu, la royauté, abaissant ce qu'elle avait encore de trop haut, se fut convertie en une espèce de présidence royale. Durant cette période d'éducation de la liberté sous la tutelle de la légitimité, notre exemple, offert aux autres peuples, eut amené dans leurs institutions des modifications analogues. L'Europe n'est qu'une seule famille. Elle a été chrétienne et gothique à la fois. Les monarchies des États généraux existèrent au même moment. Elles déclinèrent du même penchant vers le pouvoir absolu. L'Angleterre seule sauva ses franchises par la force de son aristocratie. L'Europe se nivellera dans l'ère moderne comme elle était nivelée au Moyen Âge. La France ne demeurera pas en contradiction sociale avec les États qui l'environnent. Cet isolement n'est pas possible. Il y aurait cause de mort pour nous ou pour nos voisins. Si l'avenir de l'Europe eût été conduit selon sa pente, si l'on eût avancé vers cet avenir à travers les monarchies constitutionnelles légitimes, il aurait été républicain. Rentré dans la carrière des révolutions, il est probable que nous avons imprimé aux libertés un mouvement de recul. On se flatte d'avoir abrégé le temps, d'avoir en 12 mois obtenu de la monarchie élective ce qu'on n'aurait pas tiré dans 12 ans de la monarchie héréditaire. Erreur ! On a plus vite amoindri le pouvoir de la couronne, mais par cela même on s'est éloigné de l'État républicain bien ordonné, car on n'a pas encore les mœurs de la chose qu'on a faite. Dans le combat qui existe déjà entre les éléments populaires trop subitement dilatés et les éléments monarchiques trop soudainement comprimés, on court fortune de s'abîmer dans une démocratie de quelques jours ou de s'engouffrer dans une tyrannie de quelques heures, l'une ou l'autre suivie de l'anarchie. La République, rejetée après les journées de juillet, se présentait la question du renouvellement total de la race royale. Beaucoup de raisons militaient en faveur de cette opinion. Changement total de race. Selon plusieurs, une révolution qui a tout changé dans un État monarchique ne se consolide et ne se termine que par un changement total de race. Le peuple choisit un roi nouveau, étranger à ce qui s'est passé. Un roi à qui les partis n'ont point de reproche à faire. Un roi qui n'apporte sur le trône ni lien de parenté, ni préjugé, ni rancune. Un roi qui n'a rien à récompenser, rien à venger, qu'aucune ruine n'irrite ni n'accuse. Lui confie-t-on un pouvoir sévère contre les choses et les individus de l'ancien ordre politique. Il n'a pas l'odieux de ce pouvoir. On efface sans anomalie, sans blesser des sentiments honorables, tout ce qui rappelle la dynastie déchue, laquelle ne présente plus qu'un intérêt historique. Ce monarque n'a-t-il qu'une royauté circonscrite? Il ne s'en plaint pas, car il n'a pas la prétention d'avoir possédé antérieurement une royauté plus complète. Il a été libre de refuser celle qu'on lui a offerte. Tout est donc clair dans le choix d'une race nouvelle. C'est, comme dans le cas d'une république, une mesure complète. Après les journées de juillet, on aurait pu s'accommoder de cette mesure, mais ici la difficulté gisait dans le choix de l'homme. À l'intérieur, était-il possible de trouver une famille assez respectée pour être obéie? À l'extérieur, pouvait-on emprunter un roi? Quand ce souverain eut apporté en dot à la France des frontières désirables, jamais le sang français ne se serait soumis à la domination d'un sang étranger. Le duc de Reichstadt. La République repoussée, une race nouvelle non promue à la couronne, restait le choix entre 2 espèces de légitimité. Le duc de Bordeaux, héritier d'une grande race, le duc de Reichstadt, héritier d'un grand homme. ces deux légitimités qui, à différentes distances dans les temps, avaient une source semblable, l'élection populaire, pouvaient convenir également à la France. Ce que l'Antiquité conférait au duc de Bordeaux, le duc de Reichstadt le puisait dans l'illustration paternelle. Napoléon avait marché plus vite que toute une lignée. Haut enjambé, 10 ans lui avaient suffi pour mettre 10 siècles derrière lui. Le duc de Reichstadt présentait en outre aux hommes de religion et à ceux que le préjugé du sang domine, ce qui complaisait à leurs idées, un sacre par les mains du souverain pontife, la noblesse par une fille des Césars. Je l'ai dit ailleurs, sa mère lui donnait le passé, son père l'avenir. Toute la France était encore remplie de générations qui, en reconnaissant Napoléon II, n'auraient fait que revenir à la foi qu'ils avaient jurée à Napoléon Ier. L'armée eut reçu avec orgueil le descendant des victoires. La monarchie élective a jusqu'ici peu honoré le drapeau dont elle s'est parée. Il n'a flotté que sur la porte des ministres et sous les murs de Lisbonne. Il n'a été déchiré que par les vents. La pluie déteint son pourpre et son azur. Il ne reste qu'un pavillon d'un blanc sale, vraie couleur de la quasi-légitimité. Il n'en était pas de même lorsqu'il était attaché à la pique républicaine. Sous le duc de Reichstadt, il eût été emporté de nouveau par les aigles qui planèrent sur tant de champs de bataille, et qui ne prêtent plus leurs serres et leurs ailes à cet étendard humilié. Le royaume, redevenu empire, eut retrouvé une puissante alliance de familles en Allemagne et d'utiles affinités en Italie. Mais l'éducation étrangère du duc de Reichstadt, les principes d'absolutisme qu'il a dû sucer à Vienne, élevaient une barrière entre lui et la nation. On aurait toujours vu un Allemand sur un trône français, toujours soupçonné un cabinet autrichien au fond du cabinet des Tuileries. Le fils eût moins semblé l'héritier de la gloire que du despotisme du père. Le duc de Bordeaux. La République, un prince de race toute nouvelle, et l'héritier de Napoléon exclu, venait le duc de Bordeaux. Les avantages de ce choix étaient évidents. Ce choix éloignait toute crainte de guerre civile et étrangère. Pendant la minorité de Henri V, les droits populaires auraient pris sans danger, à l'abri de la légitimité, leur extension naturelle, tandis que ces mêmes droits étendus sous la faible monarchie élective nous peuvent précipiter. Le sceptre du jeune Henri, soutenu des mains de la jeune France, eût mieux valu pour le repos de cette France, pour le bonheur même de celui qui règne, qu'une couronne entortillée à un pavé et lancée d'une fenêtre, couronne trop légère si elle se sépare de son poids, trop pesante si elle y reste attachée. Il est certain que personne ne voulait le 26 juillet l'ouvrage du 27, qu'on eût poussé le 26 des cris de joie si l'on eût accordé le retrait des ordonnances, le changement du ministère et les améliorations, suite inévitable de ce changement. Le 30, on ne se contentait plus de 2 abdications, et l'on disait à un enfant innocent, « Si ce n'est toi, c'est donc ton père. » Il pouvait répondre, « Je n'en ai point. » Il y eut surprise. On a pris un élan trop fort, on a franchi un trop large espace. Le terrain sur lequel on se trouve maintenant n'est qu'un écueil. On a sauté qu'entre 2 abîmes. Quand je dis que personne, à l'exception peut-être de quelques hommes pleins de feu et de nobles sentiments, mais peu expérimentés, ne voulait le 26 ce qui arriva le 27, je n'avance rien qu'on ne sache et dont je n'ai par-devers moi la preuve à offrir. Le peuple m'emporta vainqueur dans ses bras aux barricades, comme l'a dit un grand poète. Cette foule, composés de jeunes gens qu'animaient leur triomphe, criaient « Vive la charte !» Plusieurs fois je répondis « Oui, messieurs, vive la charte !» et « Vive le roi !» je ne fus point plongé dans la mer comme le singe que le dauphin avait recueilli en croyant sauver un homme. On ne voyait en moi que le défenseur de la liberté de la presse. On me payait de quelques sacrifices. J'avais autrefois rencontré dans les rues de Paris nos premiers révolutionnaires. Sans forme de procès, ils auraient mis un aristocrate à la lanterne, et ne ressemblaient en rien en ces enfants de la vraie liberté qui conduisaient un royaliste à la chambre héréditaire. Ceux-ci étaient de jeunes soldats, s'efforçant d'embellir la victoire par tout ce que l'honneur ajoute de générosité au courage. Ça se passait le 29. Si tout le monde eût fait son devoir, il était encore temps de concilier les intérêts. Je me tais à présent. Je ne me tairai pas toujours. Il ne m'est resté de cette journée, à moi si glorieuse, que les sentiments d'une reconnaissance éternelle et les beaux vers dans lesquels M. de Béranger a célébré l'événement qui couronne ma vie politique. En vain on a dit que l'adoption de l'enfant était impossible, que les masses populaires le rejetaient, que les prolétaires auraient égorgé les propriétaires, les serviteurs leurs maîtres, les ouvriers leurs chefs d'atelier, et tant d'autres belles choses répétées alors par la prudence. Rien de tout cela ne serait arrivé. L'armée, les populations des campagnes et des villes n'auraient pas bougé. Proclamé par le gouvernement, avec les changements nécessaires à la charte, Henri V eût été reconnu dans toute la France. La garde nationale de Paris aurait mis fin à toute république improvisée. L'ami de Washington n'aurait pas soutenu un essai infructueux, car dans cette circonstance, un rôle plus beau et plus digne de sa renommée l'attendait. Une troupe de trembleurs, quelques affamés ambitieux, ont trompé la générosité de Louis-Philippe. Il a cru sauver la France d'un danger qu'elle ne courait pas. Il s'est jeté dans la royauté pour nous racheter d'une anarchie qui n'était que dans l'esprit des poltrons. Si Philippe se fût obstiné à rester simple citoyen, Henri V était sur le trône en dépit des effarés, lesquels voyaient pourtant à travers leur peur, si elle triomphait, honneur, pensions et places. Si la légitimité n'était rien, si ce n'était rien de bannir un enfant, si la France entière ne voulait plus de la branche aînée des Bourbons, comment se fait-il que plus d'un quart des départements soient par vous-même réputés carlistes, sans parler de tous les individus carlistes qui existent dans les autres départements? Comment se fait-il que l'on soit obligé de surveiller le Midi avec 30 000 hommes, la Bretagne et la Vendée avec 50 000, comme la Belgique, d'une part pour faire un roi anglais, de l'autre pour défaire un roi français? Comment se fait-il que sur 130 000 électeurs inscrits, il ne s'en soit présenté pour voter que 80 000? Des villes de 120 000 âmes comme Marseille ont vu des députés nommés par 38 voix. À Bordeaux, lors de la dernière élection, sur 550 électeurs, 150 seulement ont paru au collège. 74 suffrages ont suffi pour donner un mandataire à une ville qui a de si grands intérêts à défendre. Comment se fait-il qu'on ait violemment retranché 96 pairs à la chambre héréditaire et que 52 autres aient dénié l'hommage? Comment se fait-il que dans la chambre des députés, où cependant le mouvement s'était établi, plusieurs membres aient refusé le serment, et que d'autres ne l'aient prononcé qu'avec des réserves et des explications? Comment se fait-il qu'un si grand nombre de magistrats aient encore refusé le même serment? Comment se fait-il qu'on ait destitué presque tous les juges de paix? Comment se fait-il que tant de préfets, tant de sous-préfets, tant d'administrateurs de toutes les sortes, grands et petits, aient été renvoyés pour leur opinion, et que nonobstant ces épurations, on soutienne que les administrations sont encore remplies de carlistes? Comment se fait-il que des corps militaires tout entiers aient été cassés, que tant d'officiers aient donné leur démission? Comment se fait-il que les élections municipales, dans une notable partie de la France, aient été suspendues de crainte de voir arriver des carlistes? Comment se fait-il qu'en plusieurs lieux, la même frayeur ait arrêté l'organisation des gardes nationales. Pouvez-vous dire qu'une opinion que vous attribuez vous-même à plusieurs millions d'individus n'ait aucune racine ? Pouvez-vous être reçu à soutenir que cette opinion ne doit pas être comptée, pesée, qu'elle doit être comprimée, enchaînée, vous qui avez admis la souveraineté du peuple, conséquemment l'indépendance de l'opinion et du vote de chaque Français ? L'œuvre a été consommée. Henri V a été banni. Mais où sont les pouvoirs de la société et qui les pourrait rétablir ? La légitimité était le seul point d'arrêt sur la pente rapide où la société est placée. La légitimité détruite. À quel tronc attachez-vous les parties dont se compose le corps social ? Qu'est-ce aujourd'hui que d'être préfet, directeur général, ministre, maréchal de France et même roi ? Toutes les autorités sont dégradées et la liberté ne se sauve qu'en se traînant dans un reste de raison individuelle. L'attaque à la propriété ne tardera pas. En tout pays, la propriété a succombé avec l'hérédité de la couronne. Cette hérédité est la plus grande des propriétés. Quand elle est envahie, toutes les autres propriétés sont menacées. Les éléments ne s'agglomèrent que lorsqu'ils sont homogènes. Si la royauté peut être maniée et remaniée, divisée et subdivisée, il n'y a aucune raison pour que la propriété, qui est aussi une royauté ou une souveraineté, ne soit maniée et remaniée, divisée et subdivisée. La société ne périt point, mais les sociétés périssent. Nos lumières seront transmises à la postérité et profiteront au genre humain. Mais il est possible que nous-mêmes, comme nation, nous entrions dans les jours de notre décrépitude. Tout paraît usé. Art, littérature, mœurs, passion, tout se détériore. Les plus nobles délassements de l'esprit sont remplacés par des spectacles grossiers. Si l'on pouvait faire renaître les gladiateurs, ils obtiendraient un succès que n'ont plus les chefs-d'œuvre de Voltaire, de Racine, de Corneille et de Molière. La Grèce aussi déserta Eschyle, Sophocle, Euripide et Ménandre pour les pantomimes des carrefours et les chevaux du cirque. En politique, même aberration. On a vu la liberté dans la forme républicaine sous la Convention. On l'a vu dans la forme monarchique sous la légitimité. On a joui du despotisme sous la gloire. On n'a pu se tenir à rien. On ne croit plus ni à la liberté ni à la tyrannie, ou plutôt l'une et l'autre ne semblent plus possibles. La pire des périodes que nous ayons parcourues semble être celle où nous sommes, parce que l'anarchie règne dans la raison, la morale et l'intelligence. L'existence des nations est plus longue que celle des individus. Un homme paralytique reste quelquefois étendu sur sa couche plusieurs années avant de disparaître. Une nation infirme demeure longtemps sur son lit avant d'expirer. Tout le monde dit en parlant de ce qui est « cela ne peut pas aller comme cela ». L'assertion serait juste s'il s'agissait de la vie. Mais si ce que l'on prend pour la vie est l'agonie, une lente gangrène, cela va parce que le dernier moment n'est pas arrivé. Le bas-empire mit 4 siècles à mourir. Dans une société morbifique, les formes transitoires du gouvernement ont aussi, comme cette société même, une sorte de végétation animale entre l'être et le néant. La difficulté d'avenir que nous éprouvons, l'absence de tout, l'essai malheureux de tout, la dégénération de tous les caractères, la résistance molle de toutes les existences qui souhaitent rester comme elles sont, dans l'horreur du plus petit mouvement, sont des misères de nature à prolonger notre état politique au-delà de sa force naturelle. Différents maux se neutralisent. La misère du pouvoir sera pour lui peut-être une cause même de durée. On ne l'attaquera pas, puisqu'il n'est rien. On n'y pensera plus, on oublie ce qu'on méprise. Puis viennent les accidents qui donnent un tour inattendu aux affaires. On en entrevoit dès aujourd'hui 3 ou 4 dont l'effet serait immédiat. Les 40 années de la Révolution française se sont divisées en 3 parts, d'une longueur à peu près égale. La République, avec ses phases successives, a traversé 10 ans. L'Empire, 11. La Restauration, 16. Il paraîtrait donc que la vitalité politique des Français, depuis qu'ils font et défont leur gouvernement, ne dépasse guère un demi-quart de siècle. L'ordre actuel, dans sa meilleure chance, et non régénéré par quelque accident, ne rampera pas si loin. Les hommes à théorie, à intérêt, à serment, peuvent donc établir leurs calculs sur ces données et chercher d'avance des raisons pour insulter à terre la monarchie qu'ils encensent debout. Quoi qu'il en soit, ceux qui se trouvaient dans le mouvement en juillet ne se crurent devoir arrêter ni à la République, ni au changement total de race, ni à la légitimité du duc de Reichstadt, ni à celle du duc de Bordeaux. Force fut donc d'en venir à ce qui existe. Monarchie de la branche cadette des Bourbons. Il n'y a point de forme politique qui n'ait une chance de succès quand on adapte les choses et les hommes à cette forme. Le roi élu avait les qualités que je lui ai reconnues. Expérience, éducation du malheur, goût du travail, facilité de s'exprimer, connaissance des besoins du temps, douceur de mœurs, aversion du sang, des réactions et des vengeances. Sa noble et belle famille ajoute un charme à ses qualités précieuses qui devait puissamment servir à neutraliser le caractère d'une organisation sociale dont les vices sont patents. Ce que l'on possède aujourd'hui est un je ne sais quoi qui n'est ni république, ni monarchie, ni légitimité, ni illégitimité. Une quasi-chose qui tient de tout et de rien, qui ne vit pas, qui ne meurt pas. Une usurpation sans usurpateur. Une journée sans veille et sans lendemain. Quand la République éclata, on pressentit qu'elle s'irait briser contre le despotisme. Quand l'Empire surgit, on devina qu'il se noierait dans la victoire, et de là dans la restauration. Quand la légitimité reprit le pouvoir, on augura qu'elle serait renversée par les idées du siècle, si elle ne les savait employer. Mais ici, que peut-on prévoir? Où est l'avenir? Quelle sera sa forme? À quelle distance est-il? Meilleur eût été de créer une monarchie purement élective, dans la personne de Louis-Philippe, parce qu'il fallait vite une tête pour boucher le trou de la couronne. Après Philippe, on aurait pu choisir un prince d'une dynastie toute nouvelle et rentrer dans le principe du changement total de race. Mais joindre l'hérédité à la monarchie élective, déblatérer contre la succession légitime et recréer immédiatement une autre succession légitime est une lamentable incohérence. On a gagné le principe de l'élection? Oui, pour et pendant 1 heure. Belle conquête. Autant valait garder ce qu'on avait. Les 4 autres combinaisons politiques, la République, le changement de race, le duc de Reichstadt, le duc de Bordeaux, correspondaient à des masses populaires plus ou moins considérables, à des opinions connues. La monarchie quasi légitime, à quoi et à qui parle-t-elle? Tout est contradiction, difficulté, embarras dans l'ordre actuel. On répudie la branche aînée des Bourbons et l'on épouse la branche cadette. Il arrive qu'on ne dit pas une parole, qu'on ne fait pas une loi contre la chose passée, qu'elle ne tombe à plomb sur la chose présente. On crie contre une race proscrite, et cette race est sur le trône. On efface les lys, et les lys sont les armes du roi électif. On a tous les inconvénients de la légitimité, pas un de ses avantages. Cependant, cette monarchie arrivée par hasard, comme on retourne une carte qui devient un atout, pouvait acquérir force dans l'État. Premièrement, par les qualités personnelles du monarque. Deuxièmement, par un baptême de gloire. Troisièmement, par une sanction nationale après l'événement. Or, ces deux dernières conditions ont manqué. La conduite de l'administration à l'intérieur et à l'extérieur a été tout juste ce qu'il fallait pour paralyser le gouvernement de Juillet. Ceci nous amène à notre seconde question.